la bague au doigt. Comme dans le cas d'autres rites de passage, la manière de célébrer le mariage peut prendre diverses formes selon le contexte. Les conditions minimales concernant le choix du conjoint, le contrat de mariage et la dot, don de biens ou d'argent pour un montant convenu à l'avance versé par le mari à la mariée, sont respectées par tous les musulmans à condition que cela n'entre pas en conflit avec la loi locale. Ainsi, les hommes musulmans ne peuvent pas avoir plusieurs épouses dans les pays où la polygamie est illégale. Au-delà de ce minimum, comme pour d'autres rites de passage, il existe une grande diversité de coutumes et de pratiques en ce qui concerne le choix du conjoint et les cérémonies qui peuvent commencer par la signature du contrat et se conclure par un banquet après la consommation du mariage. Il est normal pour un musulman de se marier. Le Coran et les hadiths, tradition, recommandent de se marier jeune. L'homme et la femme doivent avoir atteint leur majorité au plan sexuel, et l'homme doit avoir les moyens de faire vivre son épouse. En pratique, l'homme se marie idéalement aux alentours de ses 20 ans, et sa femme peut avoir le même âge, voire être un peu plus jeune. Il existe encore des mariages précoces. Le mariage ne repose pas a priori sur l'amour romantique, mais plutôt sur des considérations liées à la parenté, la propriété, la piété du promis ou de la promise, et les bénéfices réciproques que peuvent en tirer les deux familles. Les couples peuvent se réunir en présence d'un tuteur avant de signer le contrat de mariage, mais cette rencontre n'est pas exigée. Si les hommes musulmans peuvent épouser des femmes issues d'autres religions du livre, c'est-à-dire des chrétiens ou des juifs, les femmes musulmanes, en revanche, doivent épouser un musulman afin de s'assurer que les enfants seront élevés dans la religion musulmane. La loi islamique interdit également d'épouser des parents proches. Dans les pays où les musulmans sont en minorité, les organismes islamiques fournissent des services de rencontres matrimoniales par l'intermédiaire d'Internet. Il existe également, dans les magazines pour musulmans, des petites annonces matrimoniales. Le mariage dans l'islam est un contrat juridique, pas un sacrement religieux. Légalement, le mariage repose sur un contrat, nikah, qui prévoit ce qui suit. À retenir. Il est signé par le père ou le tuteur de la mariée en présence de deux témoins. Il a normalement lieu avant la vraie nuit du mariage. Le père ou le tuteur de la mariée défend les intérêts de l'épouse dans les négociations en vue du mariage. Des différences existent entre les écoles juridiques pour savoir si le tuteur peut imposer son choix à la mariée. Mais dans les pays musulmans d'aujourd'hui, le père de la mariée ou le tuteur est tenu d'agir dans l'intérêt de la mariée. Les femmes adultes ont davantage leur mot à dire dans le choix du mari que les jeunes femmes. Au XXe siècle, certains États musulmans ont fixé un âge minimal pour le mariage, par exemple 18 et 16 ans, respectivement pour l'homme et la femme. Et exige l'enregistrement du mariage à l'état civil. Le cadeau fait par le marié à la mariée est basé sur la sourate 4:4. Sans cette dot, le mariage peut être non recevable. Le montant du cadeau peut être spécifié dans le contrat. Si normalement il doit être versé avant la consommation du mariage, le contrat peut tenir compte de paiements en acompte. La dot reste la propriété de l'épouse, qui peut en faire ce qu'elle veut. Cependant, dans certains cas, il peut être convenu que cet argent servira à acheter le mobilier pour la maison. La dot peut prendre forme d'argent ou de marchandises. La tradition indique que les cadeaux nuptiaux ne doivent pas être exagérément dispendieux tout en tenant compte des usages et du statut social de la mariée. Elle rapporte également que Mohammed a donné son approbation à des dots aussi simples qu'une paire de sandales ou une poignée de farine dans le cas d'un couple pauvre. Les traditions musulmanes s'accordent pour dire que Mohammed a recommandé de faire une fête ou un banquet de mariage, bien que cela ne soit pas exigé par une loi de l'islam. C'est une façon de remplir la condition nécessaire qui veut qu'un mariage doit être rendu public. En dehors de cela, les coutumes varient considérablement d'une culture à l'autre, mais on y retrouve en général les mêmes aspects festifs de chants, de danse, parfois de récitation de certains passages du Coran. La fête de mariage, pour un ou plusieurs mariages en même temps, peut être liée à la signature du contrat, au rite qui consiste à accompagner la mariée jusqu'à la maison du marié, à la nuit de la consommation du mariage et à un banquet de mariage dans les 2 jours qui suivent le mariage. Quelles qu'en soient les modalités, c'est une occasion joyeuse pour les couples, les familles et la communauté tout entière. Au cours des festivités, on observe la séparation naturelle des hommes et des femmes. La lune de miel n'est pas une coutume musulmane traditionnelle, et selon certains, les musulmans vivant dans les pays occidentaux ne devraient pas adopter cette coutume. D'autres, au contraire, constatant que le mariage en terre d'islam combine des exigences liées à la religion avec des coutumes locales, ne trouvent rien à redire à la coutume de la lune de miel. Conseil. Une personne invitée à une célébration de mariage est obligée d'accepter l'invitation. Vous avez probablement entendu dire que les musulmans peuvent prendre jusqu'à 4 épouses. Cependant, excepté dans certaines familles princières traditionnelles, peu d'hommes musulmans ont aujourd'hui plus d'une épouse. Dans les régions d'Afrique où la polygamie était traditionnelle avant l'islam, elle a perduré naturellement avec l'islam. Mohammed a déclaré que le divorce est la chose la plus dédaignée parmi celles que Dieu néanmoins permet. Il n'y a pas de honte ou d'opprobre à épouser un ou une divorcée, encore que la tradition recommande de choisir un compagnon ou une compagne qui ne soit pas divorcée. Dans l'histoire de l'islam, il y a eu des cas d'hommes qui ont abusé de leur droit de divorce. Pour prévenir les cas où certains hommes musulmans abusent de leurs droits en épousant de très jeunes filles, un certain nombre de législations ont été mises en place de nos jours. Les musulmans auraient plutôt tendance à dire qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les occidentaux qui prennent des épouses successives, l'une après l'autre, et non les musulmans. Écoutez le chapitre 11. Dans une certaine mesure pour les hommes, mais beaucoup plus pour les femmes, le mariage constitue un rite de passage dans les sociétés musulmanes traditionnelles. La femme quitte la maison de ses parents pour assumer les tâches dévolues, traditionnellement aux femmes, tenir sa maison et faire des enfants. Dans certains pays, c'est la naissance du premier enfant, bien plus que le mariage ou la circoncision, qui marque la transition à l'âge adulte pour la mère. Comme dans beaucoup de cultures prémodernes, il existe dans certains pays musulmans tout un rituel de restrictions et de purifications spéciales qui marque la réintégration de la nouvelle mère dans la société. À propos des conditions de purification liées à la perte de sang, écoutez le chapitre 9. Des purifications spéciales peuvent être demandées à la mère. La mère et l'enfant peuvent dans certains cas passer par une période de retraite, d'abord en restant dans leur chambre, sans contact en dehors de la famille immédiate, puis en restant à la maison, avec la possibilité d'avoir davantage de contacts au cours de cette période. Là encore, les détails de cette retraite et de la purification nécessaire après une naissance varient et ne sont pas fixés par des règles.